Quelle est votre définition personnelle, si on s'autorise un petit peu de philosophie et de poésie, de l'intelligence ?
C'est un vaste débat. Pour moi, c'est vraiment être suffisamment flexible pour pouvoir résoudre des problèmes nouveaux.
Vous avancez pas trop, c'est la définition du petit Robert. Pour un dictionnaire, l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter le plus vite et le plus efficacement possible à une situation inconnue ou nouvelle.
Effectivement, mais ça, c'est vrai que c'est la définition finalement scientifique, mais c'est pas la définition du grand public finalement, puisque dans le grand public, on va pas penser à quelqu'un d'intelligent comme quelqu'un qui juste résout des problèmes. À partir du moment où quelqu'un est bon, par exemple, à l'école, où c'est quand même beaucoup du par cœur, ben, on va considérer que c'est quelqu'un qui est intelligent, etc. De même, les mathématiques, est-ce que c'est la résolution de nouveaux problèmes? Tout ça, c'est des questions un peu débat. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans tout ça, dans cette question d'intelligence, c'est de dire finalement, l'intelligence, elle est indispensable. Et que du coup, ce n'est pas réservé seulement aux gros cerveaux et aux animaux ou aux gens qui vivent longtemps et qui ont une culture, etc. Et que même un insecte, dans son milieu de vie, s'est confronté au même problème. Et donc, il a développé une façon d'avoir finalement un même niveau d'intelligence sur tout un tas de choses, donc c'est-à-dire de la flexibilité, de l'abstraction, etc. Et donc, ça remet en cause l'importance de l'intelligence. Finalement, elle est beaucoup plus universelle que l'on croit parce qu'elle est indispensable.
Bonjour à tous. Aurore Avergues Weber est chercheuse en neurosciences cognitives. En gros, elle étudie l'intelligence des abeilles au Centre de recherche sur la cognition animale de Toulouse. Les abeilles peuvent apprendre et compter, et apprendre les unes des autres. Elles sont capables de compter jusqu'à 5, comme beaucoup d'animaux bien plus gros et plus complexes qu'elles, dotés d'un bien plus gros cerveau. Les abeilles peuvent aussi résoudre des additions et des soustractions élémentaires. Elles savent aussi manipuler le concept du zéro, c'est-à-dire la notion d'absence. Un petit rappel au passage sur le zéro, qui est un chiffre et un nombre. Connaissez-vous la différence entre un chiffre et un nombre ? Un nombre, en résumé, est un assemblage de chiffres. 7 est un chiffre, 451 est un nombre. Le zéro est donc un chiffre qui est utilisé pour marquer une position vide dans l'écriture des nombres. Et le zéro est aussi un nombre, car c'est un objet mathématique qui permet d'exprimer une quantité nulle. C'est le nombre d'éléments de l'ensemble vide. Zéro a des propriétés arithmétiques très particulières. Vous vous souvenez sans doute de vos cours de collège. Il est strictement impossible, et même interdit, de diviser par zéro. Le zéro est donc un cas à part. Il sépare les nombres réels en positif et en négatif et tient lieu d'origine dans un graphe ou sur une droite. Nous brassons des millions de zéros dans nos vies. C'est à se demander comment il a pu être inventé si tard. Le nom zéro a été emprunté en 1485 à l'italien zero, contraction de zefiro, issu du latin médiéval zephyrum, qui est en fait une transcription de l'arabe sifr, qui veut dire le vide. Curiosité de l'étymologie, ce sifr arabe est aussi à l'origine du mot chiffre. L'apparition du zéro, donc, fut tardive et très délicate. Toutes les civilisations n'ont en effet pas ressenti le besoin d'inventer un symbole pour représenter l'absence. Et quand ce besoin s'est fait sentir, son introduction a suscité beaucoup de méfiance et de mystère. La première trace du zéro nous vient des Babyloniens, c'était au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Des siècles plus tard, au moment où l'islam s'étend dans le monde, les Arabes abandonnent les idées d'Aristote du IVe siècle avant Jésus-Christ, Aristote qui n'accordait pas d'existence mathématique au vide et à l'infini. Les Arabes empruntent donc le zéro aux savants indiens et le baptisent sifr. Le zéro n'arrive en Occident qu'au XIIe siècle. Et il sent le soufre. Il pâtit des vestiges de la pensée d'Aristote, mais aussi de la méfiance de l'Église. Il a quand même fini par faire son trou et s'oppose aujourd'hui à un autre concept vertigineux, l'infini, symbolisé par cette espèce de 8 couchés. En mathématiques, ce signe est une courbe particulière qui porte un des plus beaux noms que je connaisse. Le lemniscate. Bref, pour en revenir aux abeilles, grâce aux travaux d'Aurore, c'est la notion même d'intelligence qui vacille, qui est remise en question. De nos jours, de plus en plus de chercheurs étudient les différentes facettes de l'intelligence animale, et plus seulement celle des singes, des dauphins ou des chiens, mais celle des poissons, du blob, des bactéries, et même celle des arbres. C'est peu de dire que l'homme n'a pas l'apanage de l'intelligence, qui est de fait partout, pour peu qu'on se donne la peine de regarder sous les gravillons, de comprendre. Les abeilles, mathématiciennes, géomètres et communicantes de génie. Chapitre final. C'est parti. Rebonjour Aurore.
Bonjour.
J'ai pas compris comment vous faisiez votre protocole expérimental pour déduire que les abeilles peuvent compter.
Alors concrètement, il y a plusieurs façons. Une des façons, c'est d'utiliser une image cible. Elle rentre cette fois-ci à l'entrée du labyrinthe. À la place de la porte classique, on va mettre une image avec, par exemple, trois ronds bleus. Et ensuite, elle rentre et elle a le choix, donc, dans mon labyrinthe en Y, mon fameux Y, entre deux images. Et il va avoir trois carrés verts et deux carrés verts. Pour obtenir le sucre, il faut qu'elle choisisse le même nombre que ce qu'il y a à l'entrée. Donc, il y avait trois ronds bleus, il faut qu'elle choisisse cette fois-ci trois carrés verts. Bien sûr, lorsqu'elle revient, on va mettre quatre étoiles, par exemple. Et là, il faut qu'elle choisisse quatre de quelque chose. Et donc, l'avantage de ça, c'est qu'elle doit comprendre qu'il faut utiliser que le nombre. C'est le seul critère important parce que tout le reste varie. Et on peut tester différents nombres dans une même expérience, puisqu'on peut voir, OK, elle réussit bien à chaque fois qu'on lui présente un ou deux ou trois ou quatre, elle y arrive bien. Si cette fois-ci, à l'entrée, j'en mets sept, elle va se tromper. Donc, ça me permet en même temps, dans une même expérience, de voir quelle est la limite de cette abeille donnée. J'insiste sur le fait que c'est important qu'il y ait des images différentes, des objets différents, des couleurs différentes, des tailles différentes, puisque on veut être sûr qu'elle utilise seulement le nombre en tant que chose abstraite et qu'elle ne fait pas juste sur une image qui ressemble le plus à celle qu'elle a vue à l'entrée.
Comment on fait les additions et les soustractions alors ?
Alors, pour les additions et les soustractions, on a d'abord fait quelque chose d'assez simple, mais c'est prometteur pour la suite, il faut qu'on trouve une méthode pour faire quelque chose de mieux. Là, ce qu'on a fait, c'est que à l'entrée, elle a toujours une image avec un certain nombre d'objets, trois ronds. Et là, cette fois-ci, il faut qu'elle choisisse, suivant la couleur de ses ronds, donc s'ils sont bleus, il faut qu'elle choisisse l'image qui a un nombre d'objets supérieur à 1 de plus. Donc, elle en avait 3, il faut qu'elle choisisse 4. S'il y en avait 4, il fallait qu'elle choisisse 5. S'il y en avait 1, il fallait qu'elle choisisse 2. Donc, il faut qu'elle choisisse 1 de plus. Par contre, si ses ronds sont jaunes, là, il faut qu'elle choisisse 1 de moins. Pour vous dire que les abeilles, elles sont quand même flexibles intellectuellement parce qu'on ne peut pas leur expliquer la règle du jeu. Elles doivent la déduire avec leur échec et erreur au début de l'expérience. Et les abeilles y arrivent assez facilement, c'est ça qui est étonnant. Au bout d'une heure, elles ont compris qu'à la fois elles devaient augmenter de 1 ou diminuer de 1 et en fonction de la couleur. Donc elles y arrivent assez bien, mais c'est vrai que ce n'est pas tout à fait une addition dans le sens où elles n'ont pas additionné deux ensembles d'objets, tout simplement parce que pour l'instant on n'a pas encore le protocole parfait, puisque si on imagine par exemple, moi on va mettre une première image à l'entrée avec trois ronds, après elle va passer par une deuxième image avec deux carrés, et il faut qu'elle choisisse 5. Le problème, c'est qu'elles ont une mémoire à court terme assez limitée. Et donc, on a peur qu'elles aient oublié la première entre-temps. C'est des choses un peu compliquées. Si on les met en même temps, côte à côte, est-ce que c'est vraiment une addition ou est-ce qu'elles n'ont pas continué de compter séquentiellement ? Et ça, c'est le principe de tous les protocoles d'intelligence. Il faut être sûr que la question qu'on pose, c'est exactement la façon dont elle le résout. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'elle trouve une stratégie alternative pour résoudre la tâche sans vraiment faire une addition. Donc l'idée, la meilleure façon, c'est en fait de les faire additionner avec deux modalités différentes. Donc ce que l'on aimerait tester maintenant, c'est qu'elle passe par exemple dans un tunnel avec un certain nombre de portes, elle doit compter le nombre de portes, et donc ça, ce sera son premier ensemble, et ensuite elle voit une image avec un certain nombre d'objets, elle doit compter le nombre d'objets de cette image, et donc choisir la somme des deux. Là, on est sûr que c'est deux ensembles différents, et donc elle fait vraiment une addition. Je pense qu'elle en est capable, c'est juste trouver un protocole suffisamment simple pour que l'abeille comprenne la règle du jeu.
D'accord. Est-ce qu'on a fait le tour de vos expériences ? On n'en fera jamais le tour, mais est-ce qu'on a rendu justice à vos travaux ou est-ce qu'il y a des choses dont on a oublié de parler ?
Disons que sur cette histoire de mathématiques, c'est vrai que plus on creuse, plus on voit qu'en fait elle se rapproche de plus en plus des primates, de ce qu'on connaissait chez les primates, parce que finalement on ne l'avait pas testé ailleurs. Puisque du coup, en plus de ces additions, effectivement, elles peuvent associer un symbole, un nombre à une quantité. Donc, ça se rapproche voilà, de notre écriture symbolique des nombres. Elles peuvent classer du plus petit au plus grand, etc. Effectivement, elles comprennent que le zéro, donc rien, c'est quelque chose qui est plus petit que 1. Toutes des choses comme ça. Et ça nous ouvre énormément de perspectives pour déjà remettre en cause l'intelligence. Enfin, notre notion classique d'intelligence qui était liée à la taille du cerveau. Parce que finalement, on se rend compte que non. Donc, soit elles sont particulièrement intelligentes, particulièrement efficaces, soit finalement, c'est peut-être pas si difficile que ça, et c'est peut-être pas si une façon si intelligente de faire marcher son cerveau que de faire des mathématiques, contrairement à ce qu'on pensait. Donc, ça remet en cause tout ça. Et on se demande bien ben, comment elles font avec un petit cerveau. C'est l'intérêt de ma réalité virtuelle dont on parlait au début, c'est d'aller explorer dans le cerveau comment elles font pour compter, pour voir si elles ont effectivement une stratégie plus efficace que nous ou pas. Sachant que chez l'homme, on est encore beaucoup d'interrogations sur comment ça marche. Donc, ça peut aussi nous éclairer sur comment des neurones peuvent compter.
Quelle est votre définition personnelle, si on s'autorise un petit peu de philosophie et de poésie, de l'intelligence ?
C'est un vaste débat. Pour moi, c'est vraiment être suffisamment flexible pour pouvoir résoudre des problèmes nouveaux.
Vous avancez pas trop, c'est la définition du petit Robert. Effectivement, pour un dictionnaire, l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter le plus vite et le plus efficacement possible à une situation inconnue ou nouvelle.
Effectivement, mais ça c'est vrai que c'est la définition finalement scientifique, mais c'est pas la définition du grand public finalement, puisque dans le grand public, on va pas penser à quelqu'un d'intelligent comme quelqu'un qui juste résout des problèmes. Apparemment quelqu'un est bon par exemple à l'école, ou alors c'est quand même beaucoup du par cœur, ben, on va considérer que c'est quelqu'un qui est intelligent, etc. De même les mathématiques, est-ce que c'est la résolution de nouveaux problèmes? Tout ça c'est des questions un peu débat, et moi ce qui m'intéresse beaucoup dans tout ça, dans cette question d'intelligence, c'est de dire finalement, l'intelligence elle est indispensable. Et que du coup, ce n'est pas réservé seulement aux gros cerveaux et aux animaux ou aux gens qui vivent longtemps et qui ont une culture, etc. Et que même un insecte, dans son milieu de vie, est confronté au même problème. Et donc, il a développé une façon d'avoir finalement un même niveau d'intelligence sur tout un tas de choses, donc c'est-à-dire d'inflexibilité, de l'abstraction, etc. Et donc, ça remet en cause en fait l'importance de l'intelligence. C'est que finalement, elle est beaucoup plus universelle que l'on croit parce qu'elle est indispensable.
Est-ce qu'on a rendu justice à vos travaux ? Enfin, on pourrait en parler 4 heures, mais votre temps est limité, donc je ne veux pas en abuser. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des choses importantes qui méritent d'être signalées ?
On peut toujours en dire plus, mais je pense que ça donne déjà un aperçu.
Grâce à vous, on comprend mieux l'incroyable intelligence des abeilles. Merci de votre patience, de toutes ces explications. J'ai moi-même compris des choses dans d'autres domaines, y compris la sexualité, mais ça c'était au premier épisode. Donc merci pour l'ensemble de vos éclaircissements, c'était limpide. Et bonne suite de recherche, et puis on se rappelle dès que vous avez du nouveau.
Merci à vous, c'était avec plaisir. Au revoir.
Au revoir. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez vous abonner à nos podcasts, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG, ou encore faire un don sur Hello Asso ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.